Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Colette Tron. Je suis à la fois auteure et critique. Enfin, je mène surtout un travail de critique autour de justement les arts et les médias, notamment les médias numériques, qui sont effectivement notre milieu. Et j'essaie de voir comment aussi les artistes peuvent continuer à être des avant-gardes de la perception dans ce nouveau milieu. Donc j'ai participé aussi au choix de, choix de texte avec Jean-Christophe et Cécile, suite à un certain nombre de discussions avec l'équipe de Planète Émergence. Voilà, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le choix de McLuhan et évidemment ce rapport, puisqu'on a donné ce titre, McLuhan et nous, avec environ 50 ans de
exactement,
décalage.
Exactement 50 ans de différence, puisque le livre a été publié en 1964. Le titre du livre, c'est donc...
Pour comprendre les médias.
Pour comprendre les médias, et le grand livre avant ce livre-là, c'était La galaxie Gutenberg. Hein, et il a écrit, je crois, aussi quelque chose pour un village global, enfin, en utilisant ce mot qui est quand même assez surprenant prophétisme. Samuel.
Eh bien, bonsoir. Donc, moi, je suis Samuel Bollendorf. Je viens du photojournalisme et aujourd'hui, je suis réalisateur de documentaires interactifs avec donc finalement une mutation de l'écriture qu'il a fallu que je trouve pour pouvoir continuer à diffuser mon travail d'enquête, puisque la presse n'était plus le producteur de mes projets. Et donc, il a fallu
créer un nouveau milieu.
Se révolutionner, effectivement.
Ouais. Très bien.
Bonjour, je suis Marie Picard. Je suis réalisatrice aujourd'hui, plutôt pour le net. Je viens de la performance et donc cette notion de l'interactivité, c'est quelque chose qui m'intéressait dans l'espace et auquel je me suis penchée maintenant sur des plateformes numériques.
L'interactivité voilà. Entre médias.
Entre médias. Exactement. Ouais.
Hein? D'accord. Et Cécile.
Alors, donc, je m'appelle Cécile Portier. Rebonjour. alors, moi, je suis tout d'abord, je fais partie des administrateurs d'âge mûr harassé, dont Marshall McLuhan parlait si bien, puisque je travaille au ministère de la Culture comme administrateur civil. Mais par ailleurs, j'écris et j'écris beaucoup numérique. Et je viens de terminer une fiction web qui s'appelle « Étant donné » au féminin et qui est une fable poétique s'interrogeant sur justement notre nouvelle manière d'être au monde avec cette écriture de plus en plus dominante que sont l'écriture du réel et de nos vies par les données numériques. Voilà.
Voilà. Et puis alors, moi, je suis Jean-Christophe Barbeau. Je suis metteur en scène et puis... Le rapport que j'ai avec McLuhan, c'est que, comme lui, j'ai fait des études scientifiques d'abord. Et puis, je suis allé vers l'art, comme lui, qui est allé vers l'histoire de la littérature. Hein, il s'intéresse beaucoup à la littérature. Et aussi, dans mon travail de metteur en scène, j'utilise les nouvelles technologies que j'essaye d'utiliser de manière juste. Voilà. Alors, on ouvre le débat. Colette, est-ce que tu... Oui, c'est moi qui, enfin, c'est toi qui anime là. Si tu, enfin, c'est moi qui anime. Et je propose la chose suivante. Est-ce que sur ces textes, peut-être qui vous ont paru un peu compacts, parce que c'est vrai que c'est des textes, ça rigole pas. Même s'il y a pas mal d'humour par ailleurs, hein, mais c'est quand même des textes assez forts. En tout cas, il y a l'idée quand on dit le médium, c'est le message. Il y a l'idée qu'il ne faut pas regarder uniquement le contenu qu'on va mettre dans le web, ou qu'on va mettre dans un web documentaire, qu'on va mettre dans une photo, etc. Le sujet, la pertinence du sujet, enfin tout ce qu'on nous demande de faire dans les dossiers de subvention, mais que c'est aussi quel est l'impact sur ma création aussi et sur la société du médium lui-même. Qu'est-ce que ça implique? Lui, il fait une métaphore entre l'électricité et notre système nerveux. Hein. Et notre système nerveux, notre rapport ici, on a un point et en même temps le globe. Hein. Voilà. On peut dire que c'est le cas du net. Enfin, il ne croyait pas si bien dire. Alors, est-ce que, d'après les différentes choses qu'on sait, on vous a dit, dans les textes qu'on vous a lus, est-ce qu'il y a une chose qui a retenu votre attention, sûrement plusieurs, mais une que vous voudriez développer? Ouais, puis chacun va dire par rapport à ça. Peut-être rien, hein, mais voilà.
Alors, comme je suis un petit peu impliquée là-dedans, moi, c'est vrai que c'est très compact et que c'est peut-être assez difficile à appréhender pour une première approche, même si on a essayé de faire un petit peu le tour de ces questions. Je crois que deux mots sur McLuhan. Il est né en 1911, il est mort en 1980. Les deux ouvrages majeurs, c'est effectivement, tu en as parlé, La galaxie Gutenberg sur la question de l'imprimerie, du livre, de la circulation des connaissances, de l'alphabétisation généralisée. Et puis, pour comprendre les médias, qui s'intéresse à cette rupture qu'amènent les technologies électriques. Pour lui, c'est vraiment la grande rupture qui est à la fois la vitesse et qui est à la fois la dimension un peu globale, englobante à la fois de tous les sens et globale à échelle planétaire, d'où cette formule de village global qui annonce le terme qu'on utilise aussi aujourd'hui généralement de globalisation en anglais et de mondialisation en français. Voilà, parce que la dimension électrique, évidemment, il parle de la lumière dans le message, c'est le médium, en disant que le médium de l'électricité, c'est la lumière et c'est pas les contenus écrits ou le fait que ça fasse qu'on puisse voir des contenus télévisuels. Et il y a aussi cette idée que avec l'électricité naissent les télécommunications. Voilà, et toute sa réflexion sur les médias part de cette instantanéité des télécommunications qui nous transporte et qui nous met en relation, il le dit, les uns avec les autres. Et en même temps, cette vitesse qui crée l'action-réaction. Alors là, on a presque la cybernétique, là, hein, avec la question du feedback, qui fait que on n'est plus, il le dit, on ne peut plus être flegmatique. Et
on
que
n'a plus le temps.
L'occidental alphabétisé qui a perdu un certain nombre de sens, notamment son rapport à l'oralité, et se retrouve un petit peu perdu dans cette nouvelle sensorialité et cette nouvelle responsabilité qu'engage cette instantanéité. Voilà, je vais m'arrêter là, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'était surtout sur le village global, je trouve ça très très important, ce que ça implique comme redistribution des rapports entre les êtres et entre les cultures qui sont en fait liées les unes aux autres à échelle planétaire.
Samuel.
Oui, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était effectivement cette espèce de cette notion toujours autour de cette idée de l'électricité. Il y a quelque chose là d'un engagement finalement lié à la connectivité finalement où chacun en se connectant effectivement prend part à la simultanéité du signal mais finalement il s'engage et donc on est plus dans la même dans le même rapport en tant qu'auteur, on n'est plus dans le même rapport au narrateur, au spectateur. C'est-à-dire qu'il est lui-même, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec l'interactivité, c'est qu'il est lui-même partie prenante de la narration, de la perception en fait, des contenus. Il est vraiment... moi, je travaille beaucoup avec la photographie et le son. Et finalement, le fait d'associer le son à l'image fixe permet d'alimenter un hors-champ qui demande au spectateur de faire lui-même les ponts, de relier lui-même l'information visuelle figée par la photographie à l'information sonore. Et donc, il va prolonger dans un espace, dans son imaginaire, la photographie par le son. Et ça, je pense qu'on peut l'avoir justement parce qu'il est, engagé dans le signal, dans le récit, dans la perception des éléments qu'on lui donne à voir et entendre.
Cette notion de la participation plus grande est très importante chez McLuhan et il distingue les médias froids et les médias chauds. Les médias froids sont ceux qui nécessitent un engagement plus grand, qui n'est pas évident. Alors que par exemple la radio, la photographie sont ou le cinéma sont des médias chauds qui font qu'on est tout de suite pris. Alors ça peut être aussi totalitaire. Hein. Évidemment la télévision pour lui c'est un média froid. Il faut quand même décider de s'asseoir, regarder, décider que c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de jeux, qu'il y a tant d'images un peu hypnotiques pour capter l'engagement qui n'est pas si évident que ça du spectateur. Ça, pour moi, c'était une nouvelle notion parce que je voyais la télévision comme opprimante. Mais en fait, notre rapport à la télévision, il dit à quel point, par exemple, l'image est faiblarde et peu définie sur une télévision. Les informations sont moins importantes que, par exemple, dans une très belle photographie. Hein, où là, on a un rapport direct à l'image qui crée une nouvelle grammaire. Il appelle ça l'homme graphique. Voilà.
Oui, mais c'est vrai que cette notion de média froid et média chaud, j'étais assez surpris effectivement en lisant qu'il il appelait ça un média froid. Le média froid étant celui qui demande au récepteur un engagement, justement, un travail. Alors que, justement, ça veut dire qu'il y a, un objectif de connexion, de dialogue qui a été atteint. Et donc, c'est étonnant que ce soit le froid.
C'est possible parce que pour les anglo-saxons, ce n'est pas la même chose que nous. C'est-à-dire que le froid et le chaud ne sont pas considérés. Nous, le chaud est bien considéré et le froid mal considéré, mais pas pour les Anglais. Voilà, il y a un relativisme culturel là.
Je voudrais juste donner une petite précision, c'est qu'enfin, il y a des traductions assez différentes, c'est-à-dire que nous on dit chaud et froid, mais en anglais c'est hot and cool, et cool évidemment c'est plus glissant, c'est plus sympathique que froid.
C'est vrai, et hot c'est plus sexuel, hein, oui. Alors, Marie, pardon.
Ben, moi, je rejoins un peu l'idée de départ sur le corps comme vecteur et le rapport à l'électricité. Je pense qu'aujourd'hui, c'était déjà le cas au niveau électrique, mais cette notion action-réaction qui est effectivement assez importante dans l'écriture d'une œuvre interactive, on ne peut pas l'isoler, on est obligé de la prendre en compte. Et donc, je rejoins pas mal Samuel sur ce changement de posture de l'auteur, puisqu'on n'écrit pas de manière frontale. Voilà, on a en face forcément un internaute acteur et on ne peut pas vraiment le nier. Ou si on le nie, alors il faut que ce soit volontaire pour le mettre dans une position frontale, comme un spectateur peut avoir l'habitude là. De l'avoir, mais voilà, je suis particulièrement intéressée par cette approche philosophique qui dit quelque part l'implication comme ça de, enfin, le nouveau médium va changer effectivement
et accroître la responsabilité en fait de chacun et augmenter la nécessité du dialogue.
C'est vrai que là-dessus, en tant qu'auteur, on est dans une position où on se doit forcément d'aller chercher des réponses qu'on n'a pas, en fait, puisque la réaction, on ne la connaît pas, a priori, même si on peut les deviner.
De mon côté, effectivement, j'ai pu constater aussi qu'écrire sur ce champ-là, en employant ce terme de champ, à la fois pour dire... il y a une question, il y a un rapport à la temporalité qui est complètement différent quand on écrit sur le web, et aussi qu'il s'agit d'un champ à travailler, que tout ça a changé ma façon d'écriture, mon rapport à l'adresse par rapport à celle que je pouvais envisager avant d'écrire sur sur ce genre de ce qui n'est pas justement un support, mais bien plus. Et puis, ça a aussi eu comme conséquence de me faire prendre, comment dire, la conscience du fait que tout était poreux dans le rapport au sens. C'est-à-dire que effectivement j'ai eu envie, dès que j'ai commencé à écrire web, d'y associer l'image, d'y associer autre chose, du son, etc. Et surtout, finalement, la notion du toucher. Et c'est là où ça rejoint pour moi les interrogations de McLuhan, enfin sur l'idée que effectivement on est connecté et touché et responsable de tout ce qui se passe, puisque puisqu'il s'agit des prolongements de nos propres sens, de nos propres corps, et en même temps on voit bien à quel point nous sommes séparés de ce que nous sentons, puisque nous ne pouvons pas tant agir dessus. Alors c'est sûr, on peut cliquer sur la souris, mais pour autant, le réel continue de nous échapper grandement, et nos capacités d'agir, elles sont limitées. Alors là, c'est plus du tout, je me place plus sur le terrain de l'écriture ou de la poésie, mais sur le terrain de la politique. Mais il y a un moment où cette bascule-là, elle est absolument nécessaire, quand on se rend compte que justement, l'interactivité, est-ce qu'elle ne vient pas de masquer l'organisation et la mise en scène d'une connectivité qui jamais ne pourrait être agissante. Là, ça m'intéresse.
Donc on serait toujours les jouets de cette connectivité, en quelque sorte.
En tout cas, on est dans une sorte de milieu du guet où, effectivement, notre système nerveux central s'est trouvé très, très fortement allongé jusqu'à aller jusqu'au fin fond de la planète et partout. Et que, donc, ça nous fait mal partout.
Même sur la comète.
Ouais. ça peut potentiellement nous faire plaisir ou nous faire mal partout. Mais pour autant, on a pas les muscles qui vont avec, quoi. Donc, on est bien embêtés.
C'est-à-dire que notre responsabilité augmente, mais on n'a pas les moyens.
Voilà. Donc comment, du coup, on engage sa pratique à cet endroit-là, pour que ça devienne les muscles dont on ne nous a pas paré en même temps qu'on nous paraît des nerfs, quoi.
C'est très brechtien, tout ça.
Oui, voilà, mais... c'est donc ça qui m'intéresse.
Mais en fait,
Samuel,
je pense que c'est tout l'enjeu, c'est justement de ne pas se leurrer sur la dimension participative. C'est-à-dire qu'effectivement, on accède à une information qui est très lointaine, et pour autant, il faut rester dans le registre d'une perception... imaginaire, et si on croit pouvoir interagir réellement, alors effectivement on se cognera systématiquement à la limite de physique de notre lien à l'information. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de trouver des formes d'écriture qui laissent toujours une part de vide, et que cette part de vide, elle laisse du coup un espace pour que l'imaginaire se déploie, et pour que ce soit finalement au bout du terminal que se joue le récit. Et pour moi, la participation, c'est vraiment d'essayer de poser, de en permanence renouveler ce que j'appelle le contrat d'attention, finalement, avec le spectateur, pour qu'en permanence, il souhaite... se réengager dans un imaginaire parce qu'on lui donne quelques éléments qui lui permettent de continuer à fabriquer du récit, mais de pas avoir le sentiment que avec les éléments qu'il a, alors il peut agir sur la matière en elle-même.
D'accord, mais en même temps, tu traites de sujets où tu ne cherches pas simplement à développer un imaginaire et à faire que les gens puissent se raconter des histoires. Ou alors j'ai mal compris.
Non, quand je dis imaginaire, c'est affecté.
Oui, donc qu'ils soient affectés pour que, éventuellement, même s'ils ne sont pas en mesure, eux, de venir agir sur le terrain que toi, tu es venu documentés, ils puissent avoir pour leur propre compte et dans une proximité qui serait celle de la chair, si on continue dans notre dans nos métaphores organiques, devenir sensibles à leur réel à eux, en étant informés de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est justement cette, alors là on a bien une boucle de rétroaction, de feedback qui ferait qu'on retrouverait la possibilité d'agir, mais elle n'est pas donnée d'avance, c'est ça que je veux dire, et qu'on a bien un travail à faire à cet endroit là
Oui, si je peux me permettre, quand McLuhan parle des artistes et de leur sensibilité sensorielle, enfin de leur capacité à percevoir le milieu, c'est aussi une réponse à cette sorte de manque, enfin à la fois la possibilité dans la relation à distance d'avoir accès à d'autres informations, d'autres cultures, mais en même temps de ne pas en avoir l'expérience, de que cette relation ne passe que par l'information. Et j'ai l'impression aussi que sa réponse par rapport à ça, c'est comment retrouver cette expérience, cette espèce d'expérience mutilée que d'autres, enfin il y a des philosophes qui emploient cette expression, comment l'artiste peut renouveler cette expérience sensible avec les médias qui sont ceux de son temps. Et encore une fois, la traduction de médias, en anglais, médias, ça veut dire aussi technologie, hein, puisqu'il ne parle pas que des médias comme moyen, mais comme évidemment technique et fabrication technique.
Peut-être que tu voulais rebondir.
Oui, non, je voulais juste revenir sur cette part de vide dont on parlait, et cette place laissée au spectateur. Je pense que c'est là que justement, bon, le média doit être considéré comme technologie, et quand on parle de vide, c'est qu'on, pour moi, c'est là que se trouve l'art finalement. C'est là qu'on n'est plus dans une démarche simplement informationnelle ou commerciale, mais que la technologie nous permet de laisser un espace imaginaire, de développer un désir. Et évidemment, c'est un désir qui reste fabriqué par l'artiste, qui est
une proposition,
qui est une proposition,
plus
qui est moins ouverte que ce qui nous paraît bien souvent, mais qui donne suffisamment d'envie et de désir pour aller jusqu'au bout de l'expérience. Voilà, je pense, pour moi, le silence, il se fait au cinéma, il ne se fait pas à la télévision.
Quand on parle, excusez-moi, de web documentaire, justement, c'est-à-dire, parce que là, on parle de l'artiste et on parle en même temps de l'action de quelqu'un sur le réel, c'est pas tout à fait la même chose. Comment tu te situes dans le web documentaire ? Tu es artiste, tu es militant, où se trouve l'équilibre entre les deux ? Parce que ça rejoint un peu entre la place, utiliser l'imaginaire et d'autre part être sur la réalité concrète. Tu as dénoncé en son temps l'autre côté sombre de la Chine, hein, par rapport à ce qu'on en voit, toutes les mines de charbon là, qui s'effondrent et tout ça. Est-ce que, par exemple, cette exposition que tu as faite a eu des effets, même très faibles, même, mais symboliques, mais sur là-bas, sur la Chine?
Ah, ça, je peux pas. Je pense que là, c'est compliqué. D'abord, effectivement, je pense que quand on fait ce type de métier, il faut pas avoir la naïveté de penser qu'on va changer le monde. Et en même temps, c'est la somme de toutes ces gouttes d'eau qui alimentent une opinion, qui sensibilise. Donc, c'est pas mon travail sur les jouets qui a changé le regard sur la fabrique des jouets en Chine, mais c'est l'ensemble des travaux qui ont été menés sur ces problématiques qui ont sensibilisé. Après, pour savoir si je me place du côté des artistes ou
est-ce que ça a un sens de parler de ça ?
Oui, c'est marrant. Quand j'ai commencé mon métier, je rêvais d'être photoreporter, puis après ça s'appelait photojournaliste, et maintenant on dit photographe documentaire. Et je pense que dans cette évolution sémantique, on voit la question de la place de l'auteur et finalement du rapport de l'émancipation qu'il a pu y avoir de l'information brute. Et donc effectivement, c'est de plus en plus écrit ce que je réalise. Mais je me considère pas comme un artiste pour autant. Mais par contre, effectivement, il y a quand même un travail d'écriture à partir de ce.
Et puis il y a une valeur artistique de certaines photos.
Oui, oui, non, mais après, tout ça, pour moi, ce sont des outils. Mais voilà. C'est un vaste marécage.
En tout cas,
ces frontières sont de plus en plus poreuses. Voilà. Avec justement aussi, avec le web, avec toute le numérique a complètement changé ces clivages. Hein. Ça a fait tomber énormément de barrières.
Oui, donc, les spécialisations ont disparu.
La spécialisation, la discipline, du statut, etc. Puis même quand McLuhan dit que si on veut reprendre un petit peu, se réapproprier sa propre vie et devancer les coups des avancées technologiques, il faut soi-même accepter de devenir un tant soit peu artiste. C'est bien de ça dont il parle, quoi. C'est aussi qu'on n'est plus dans l'idée d'une... Enfin, que la responsabilité et la sensibilité qu'on acquiert, elle nous amène à nous-mêmes élaborer quelque chose à partir de ce réel qui nous arrive en pleine poire.
Oui, puis il y a une espèce de, justement, avec cette espèce de permanence de la connexion, il y a une permanence de l'information. Et donc, chacun d'entre nous a accès tout le temps à tout. Donc, simplement un rapporteur, ça ne suffit plus. Il faut l'éditorialiser, il faut décider de porter un discours.
En tout cas, comme il dit, une responsabilisation plus grande.
Oui.
Tu voulais réagir ?
Oui, je voulais réagir aussi par rapport à la façon dont Cécile Portier a présenté son travail, aussi par rapport à étant donné, c'est-à-dire comment on écrit nos vies avec ces matériaux actuels. L'information aujourd'hui, elle passe aussi par les données, et donc pour moi ça va aussi dans cette évolution des technologies, c'est-à-dire que il y a des technologies qui passent par le mot, enfin l'oralité c'est déjà une forme d'extension, hein, mais après par l'écrit, ensuite par des images. Deleuze disait aussi que l'accès à l'information passe par les chiffres, aujourd'hui ça passe par les données. Comment on se réapproprie ça et comment on écrit avec ? Voilà, ça m'intéresse à interroger. Est-ce qu'on peut écrire avec des données ? C'est une question. Je ne sais pas comment tu as travaillé sur ce projet, mais est-ce que c'est une matière à travailler, en sachant que les données accumulées, ça ne représente rien, ça n'a aucune symbolique, ça construit aucun, enfin, c'est du stock, quoi, hein, ça ne construit aucun savoir. Comment on fait pour produire de la distinction, du discernement dans ce modèle-là, dans ce nouveau mode de rapport à l'information? Est-ce que les données sont de l'information ?
Au-delà de Google.
C'est vraiment de ça dont parle cette fiction. Hein. Et l'idée, c'était justement de faire apparaître une écriture qui, par définition, nous est invisible. Nous est illisible, invisible d'une part, et illisible d'autre part, parce qu'on est analphabète à cette écriture-là, j'allais dire de façon inhérente, puisqu'elle est faite pour être lue, calculée, interprétée et mise en visualisation par des machines et non pas par nous. Donc je ne peux pas écrire moi-même ces données et écrire à partir de ces données. J'ai écrit, c'est plus sur les dispositifs qui les produisent, et comment ces dispositifs deviennent nos
partenaires,
nos interfaces, les faces que nous avons en face de notre propre face, de notre propre visage, et comment ça vient remplacer la reconnaissance mutuelle qu'on peut avoir entre deux faces humaines. Voilà, en gros, ma question, elle était plutôt là. La fiction, elle est simple dans son histoire, qui est véritablement un prétexte. C'est, étant donné une femme qu'on retrouve nue et inconsciente dans un terrain vague, elle se réveille, elle est amnésique, on ne sait rien d'elle, et en même temps, nous avons tout de suite la tentation, puisque nous en avons la capacité, de l'identifier et ensuite de la rhabiller toute sa vie à partir de toutes les données qu'elle aurait disséminées avant,
sa disparition. Et donc, effectivement, même si l'enjeu économique actuel n'est pas de venir dire que Madame Tartampion, elle a telle ou telle habitude et elle fait ceci, cela, cela, mais beaucoup plus de définir des profils de consommateurs ou de potentiels suspects pour voir à quel point on se rapproche ou s'écarte d'une normalité ou d'une pathologie. Moi, je suis partie de l'idée qu'il y avait ce profil-là, enfin cette vie-là qui était entièrement écrite par ces traces, recollectée ensuite statistiquement dans des profils, mais enfin, et qu'on pourrait potentiellement la relire comme ça. Alors, sachant que la fiction ne va jamais dire effectivement elle s'appelait Madame Tartampion et elle avait tant d'enfants et elle faisait ceci, cela. Elle restera une instance complètement vide. Mais c'est le prétexte pour pouvoir ensuite venir interroger plein de dispositifs de ces écritures-là, qu'il s'agisse de
co-créer avec la machine.
Oui, et puis de venir, à partir de ces dispositifs-là, d'aller au plus près de comment eux, ils se comportent dans leur manière de nous regarder, et simplement de faire des petits écarts et de les déjouer un peu pour les faire parler autrement et de les rendre visibles, quoi.
Et juste, est-ce qu'on peut donner le site internet, là?
C'est étant donné, avec deux E à donner, .net.
Voilà, c'est facile, étant donné E, .net.
Oui. Mais c'est pas seulement créé avec la machine, parce qu'en fait, la machine n'est qu'un outil, encore une fois. C'est un bloc de pierre, il faut un ciseau pour pouvoir le sculpter, et à la main, un sculpteur ne peut pas le faire. Ces données, il faut une machine pour les modeler, pour en faire un élément.
Ça, c'est le prolongement. Oui,
oui, mais
c'est le
prolongement de la main. Sauf que, effectivement, on est dans un monde digital.
Le message, c'est le médium, c'est le nouvel état du médium, quoi, et du message.
Oui.
Mais du coup, ça pose justement cette question de réflexion autour du message. On a créé ce médium, on a créé tout un tas de médiums, mais je veux dire, on arrive à la création d'un médium qui, visiblement, effectivement, nous dépasse et sur lequel on a plus de mal à contrôler, du moins ça dépasse l'espace et le temps de façon un peu nouvelle. Et donc, pour moi, l'intérêt aujourd'hui, c'est justement de réfléchir au message qu'on peut... même si, effectivement, la métadonnée va prendre plus de place que nous, singuliers, êtres humains ou auteurs qui avons le désir, on doit le charger au maximum en message.
Mais ce que dit McLuhan, c'est justement qu'il faut regarder ce message, ce médium de loin, pour pouvoir trouver des réponses à ce qui peut nous opprimer, ou ce qui peut nous limiter, ou ce qui peut... ou ce qui peut être positif aussi, c'est-à-dire pour analyser ce... Il, très souvent, il s'appelle dans le bouquin... l'analyste des médias, hein, et il utilise ce terme-là. Et au fond, il considère, il a une vision d'ailleurs assez chrétienne des médias, disant que ce sont des idoles, qu'il faut justement faire attention à ne pas s'y aliéner. Mais en même temps, elles existent, et donc il faut les utiliser. Donc voilà, il faut trouver l'aspect créateur.
Et je pense que justement, là, on atteint une technologie qui va... peut-être, hein, je ne sais pas, mais qui va peut-être nous dépasser là-dessus, parce que pour l'instant, on peut encore comprendre dans notre écriture action-réaction, peut-être qu'on va à un moment dépasser notre même capacité de cerner cette action-réaction, et dans ce cas-là, la question du droit d'auteur, elle disparaît, quoi. Pour l'instant, on n'a pas les outils, je pense, encore, mais...
Oui, les situations nouvelles, enfin, je
peut-être
pense...
qu'on va y arriver, même plus rapidement voilà, qu'on
je pense
croit,
à ces collectes de... je ne sais plus exactement, mais données scientifiques sur une partie du ciel, on découvre quelque chose et il va y avoir un appel des scientifiques à plein d'astronomes amateurs pour envoyer sur Internet leurs données. Et on arrive comme ça à trouver finalement une œuvre commune. Alors à qui appartient-elle cette œuvre ?
Mais là-dessus, de la même façon qu'on a un culte du médium, on a aussi un culte de l'œuvre, de l'artiste unique, etc. Et c'est quelque chose... Qui pour l'instant est encore très inscrit dans notre société et qui va peut-être muter.
Elle est inscrite là où il y a des intérêts économiques pour qu'elle soit inscrite. Hein. Soyons pas.
Non, mais après, il y a quand même. Y a tout...
Ça rejoint.
Mais après, il y a quand même toute la. tous les usages sur le web, évidemment le partage du code, les réseaux sociaux, etc., qui s'installent de plus en plus sur la désappropriation quand même. Hein, et là, la propriété intellectuelle, elle a plus voix au chapitre. Et par ailleurs, c'est même pas forcément une mauvaise chose, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas aller, quoi. On va pas dire aux gens, vous ne pouvez plus utiliser des images pour communiquer alors que les réseaux sociaux ne fonctionnent qu'avec des images. Et pourtant, c'est une violation du code de la propriété intellectuelle. Mais c'est comme Adopi, on ne va pas faire des lois pour interdire à des centaines de milliers de gens.
Mais c'était suspendu, Adopi, il paraît.
Oui, bon, on ne peut pas tous devenir des pirates non plus, mais il va falloir plutôt faire des lois que continuer à être des pirates, et des lois de partage et de bien commun, évidemment. Qui produit les contenus sur le net, qui produit les traces, c'est ceux qui l'utilisent, c'est les utilisateurs, enfin moi j'appelle ça plutôt les praticiens. Donc il y a un jeu de pouvoir entre les industriels de programmes, les applications industrielles ceux qui essayent de trouver une alternative. Effectivement, c'est surtout le logiciel libre. Il y a aussi aujourd'hui des villes qui favorisent les données ouvertes, il y a le partage des données, il y a un certain nombre de réponses qui commencent à émerger. Le combat va être rude, ça c'est certain, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques derrière.
Il passe par la formation.
Et la formation aussi.
Oui, ce que dit McLuhan dans sa conclusion.
Oui, et dans ce livre aussi, les enjeux de pouvoir, ils sont... Enfin, en tout cas, dans ce qu'on a lu, ils sont seulement esquissés, mais ils sont quand même présents. C'est-à-dire, effectivement, je ne saurais plus le dire de mémoire, mais quand nous céderons nos yeux, nos oreilles, nous n'aurons plus aucun droit. Que les propriétaires des médias savent très bien que le contenu n'a aucune importance, ce qui compte c'est la force que représente le fait d'avoir le média. Je veux dire, on voit bien que là la question c'est pas, enfin, l'enjeu il n'est pas dans ce que nous pouvons éventuellement faire comme petites entorses à la propriété intellectuelle en allant balancer une image sur Facebook qui ne nous appartient pas, mais par contre qu'il y a une véritable préemption par Facebook et d'autres
voilà,
grands
des puissants.
Acteurs comme ça de contenu ou de création, où l'enjeu c'est pas pour nous d'en être propriétaire, mais d'en être de pouvoir être par rapport à ça dans la reconnaissance d'une relation possible à l'autre. Voilà, c'est tout. C'est qu'on a des regards, qu'il s'agisse de créer le clic droit ou de porter tel ou tel regard particulier sur une réalité. On a des regards et des sensibilités. Ça, je pense que l'enjeu de discuter sur le bien ou mal fondé de la propriété intellectuelle n'est pas de remettre ça en cause, mais bien de remettre en cause l'idée d'une propriété mal placée, quoi. On est d'accord, je pense. Moi, je parlais pas, là justement, je ne parlais pas d'enjeux économiques. Je disais que l'enjeu, il était dans celui de pouvoir se reconnaître mutuellement dans ce qu'on apporte à l'autre.
Et c'est aussi la spécialisation qui disparaît.
Oui, c'est ce qu'on parlait, on parlait du décloisonnement.
Avec l'électricité, il n'y a plus... Il n'y a plus des cases.
Et c'est cette progression-là. En fait, plus il y a d'écriture, et plus ça pose la question, effectivement, de la fiction. Ou en tout cas, ça laisse ce champ-là s'ouvrir, ce qui évidemment n'était pas du tout dans mes pratiques avant. Donc, cette évolution-là, donc, qui passe éventuellement par la direction d'un comédien ou le fait de monter un spectacle, c'est effectivement une évolution qui finalement est très concrète. Et c'est peut-être une façon de revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire que il y a sur le web ou avec cette connexion permanente une nécessité de produire un objet finalement qu'on partage, qu'on est obligé de financer en amont parce que il n'aura plus, ça n'est plus un modèle économique, mais c'est un modèle de connectivité. Et c'est finalement, comme le font les musiciens, par les concerts, qu'on va chercher un nouveau modèle économique en fabriquant des objets de rencontres réelles avec des humains en chair et en os qui viennent participer à un spectacle. Donc effectivement, il y a de toute façon, on ne peut pas aller contre ces évolutions liées au médium. Mmh. Par contre, on peut essayer effectivement de continuer à, sur la base de ce travail-là, de le déployer pour qu'il trouve le plus d'épaisseur d'existence sur différents supports. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, enfin en tout cas moi qui m'intéresse, et ce décloisonnement m'a permis d'oser, ce que je disais, petit à petit, de faire effectivement des pas de côté et de m'émanciper de l'information brute.
Mais en tout cas, on voit, McLuhan c'est 64, donc ça fait 50 ans, ça met du temps quand même pour que les choses se passe, et peut-être aussi qu'il y a des choses aujourd'hui, et c'est dans 50 ans qu'on les verra. Ben, écoutez, je pense qu'on peut... Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on arrête le...
Oui, vous avez fini sur la... On a fini le choix de ces textes sur la question de l'automation.
Oui.
Je crois qu'on n'en a pas beaucoup
qui
parlé.
Qui est d'ailleurs le dernier chapitre du livre.
Oui, oui, oui.
Qui est pas anodin.
Alors, ce qui est aussi très étonnant, c'est le sous-titre que tu as souligné tout à l'heure, qui s'appelle « L'école permanente ». C'est-à-dire qu'on est dans un rapport... Il y a toujours ce rapport à la technologie qui est nos machines, nos instruments, nos outils. Ils nous servent à nous prolonger pour travailler des matériaux, pour labourer, pour on ne sait. Donc il y a toujours cette discussion, enfin cette polémique sur aliénation, libération. Mmh. Et je crois que il pose là avec la question de l'automation une question qui n'a effectivement depuis 50 ans toujours pas été résolue. C'est-à-dire que Que devient l'humanité quand elle est aussi libérée de certains labeurs ou emplois, il emploie justement ce mot d'emploi, et qu'est-ce qu'elle devient? Alors lui, il dit au lieu d'être oisif, on est de plus en plus engagé au contraire, et le temps qu'on a, ça va être du temps qu'on va passer à apprendre sa vie, dit-il.
Plutôt qu'à la gagner.
Plutôt qu'à la gagner. Et ça,
c'est évidemment pas du tout ce qu'on nous dit. Hein.
Et ça, ça renvoie pour moi au chapitre qui s'appelle le défi et la chute, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bah, c'est un défi à gagner, c'est-à-dire dans quelle économie on se situe, qu'est-ce qu'on fabrique, hein, quand on n'a plus à travailler et qu'on a quand même, il faut quand même gagner sa vie d'une façon ou d'une autre, et que bah, la chute peut arriver. Et il parle, bon, alors je ne sais pas si on l'a cité, du spectre du chômage, mais c'est essentiellement ce qui est arrivé. Et voilà, donc pour terminer, je voudrais dire que la question de l'automation, dont l'automation, c'est les machines qui fonctionnent toutes seules, sans l'intervention de l'homme, et l'automatisation à l'ère du numérique, c'est le sujet du débat de la table ronde avec Bernard Stiegler la semaine prochaine, puisque évidemment toutes ces questions du calcul des données, nos machines qui calculent à la fois ce que nous allons devenir, nos profils, quel va être le cours de la bourse, est en train de prendre de plus en plus de place, et que c'est un autre stade de l'automation qui est en train de se profiler. Donc qu'est-ce qu'on en fait, quel est le défi face auquel on se trouve aujourd'hui à l'ère du numérique?
C'est une parfaite conclusion, oui.
Alors. Moi, je pense que le chômage, il n'est pas forcément lié, en tout cas le chômage en Europe ou en France, on va dire plus particulièrement en France, il est quand même lié aussi au fait que, justement, la main-d'œuvre est moins chère ailleurs. Et donc, c'est pas une question de machine, malheureusement. C'est aussi une question de machine, mais c'est une question, je sais pas si c'est ce La question est juste, mais je ne suis pas sûr que c'est ce dont nous sommes témoins. Je pense que le chômage est surtout lié à la fin de l'industrialisation.
Du fait de l'automation?
Oui, non, parce que je pense que cette fabrication s'est délocalisée.
Oui, mais regarde, Paul, quand j'étais à l'école des mines, j'ai fait un stage dans une mine de charbon à Saint-Étienne. On m'a dit, dès le départ, quand je suis arrivé, j'ai visité toutes les installations et tout ça, j'avais 20 ans. Eh bien, déjà, on produisait à perte. C'est-à-dire que le gouvernement subventionnait la tonne de charbon produite. Ce n'était pas du tout rentable, mais on gardait ces mineurs pour des raisons sociales. Et ils ont été jusqu'à être silicosés, etc., les pauvres d'ailleurs. Enfin, mais on les subventionnait pour qu'ils soient silicosés. Et moi, ça m'a toujours frappé. C'est-à-dire que on savait depuis très longtemps. Moi, j'ai vu dans les années 80 un film du japonais où on fait la construction d'une voiture de A jusqu'à Z sans aucun ouvrier. Donc, c'est pas donc une question de main-d'œuvre moins chère. C'est que, alors là, on n'ose pas faire ça parce qu'il y a, alors là, c'est la catastrophe. Il y a plus personne qui travaille. Mais si on allait à fond dans l'automation, on est freiné. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, on peut
Après,
discuter. Oui.
là-dessus, je trouve le point de vue de, enfin, très beau, quoi, de dire de ne pas passer sa vie à la gagner, que finalement, ces machines viennent remplacer quand même un travail laborieux. Alors oui, on perd une culture ouvrière et il faudra trouver d'autres chemins dans notre société pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles qui peuvent être le chômage. Mais je veux dire, le chômage, c'est aussi un moment qu'on peut prendre pour apprendre d'autres choses. Je pense qu'il faut se libérer un peu de ce carcan du travail comme de l'emploi, voilà, de l'emploi, et dissocier l'emploi et enfin, moi je considère quasiment que je travaille tout le temps, pour autant je ne travaille jamais. Enfin, je sais pas, c'est des frontières qui sont beaucoup plus poreuses, et c'est vrai que aujourd'hui c'est réservé peut-être à une classe un peu élitiste d'avoir ce genre de pensée, parce que
Sûrement,
c'est voilà, c'est un
sûrement,
luxe de
bien sûr,
pouvoir
bien
avoir ce
sûr.
type de pensée. Mais si on arrivait plus ou moins avec, je pense effectivement aux nouvelles réflexions, le numérique là-dessus est porteur, les Fab Labs, enfin, il y a plein de nouveaux espaces où on réfléchit à notre vie un peu différemment. Et je pense que là, bah, dans l'absolu, la technologie pourrait devenir une aide, en espérant qu'effectivement, on ne passe pas par trop de dizaines d'années de monopole commercial dessus. Mais
Ouais,
voilà,
ou
c'est un effort
d'aventure.
social, ça, de la société entière.
Donc on voit que la question, c'est moins celle du travail que celle de la répartition des richesses, finalement.
Ouais. Autre réaction? Non, et ben, on va peut-être clore aujourd'hui ce débat en disant que le prochain débat, c'est quand alors?
Alors, le prochain débat, c'est peut-être Marie-France, tu veux en parler?
C'est quel jour, quelle heure?
C'est mercredi prochain, le 17
17.
décembre, ici même, à 18h30, avec une conférence de Bernard Stiegler qui s'appelle La désintégration, et qui sera suivie d'une table ronde avec des gens de l'économie, des gens des nouvelles technologies, de la politique, une sombre petite critique que je suis, et puis avec évidemment Gérard Paquet, président de Planète Émergence.
Eh bien, merci à tous et bon appétit.